24. Le printemps était revenu avec ses chants d'oiseaux et ses parfums de fleurs nouvelles. Le jour finissait. Les rougeurs du couchant s'effaçaient sous les teintes violettes de la nuit. Lelia rêvait sur la terrasse de la Villa Viola. C'était une riche maison qu'un Italien avait fait bâtir pour sa maîtresse à l'entrée de ces montagnes. Elle y était morte de chagrin, et l'Italien, ne voulant plus habiter un lieu qui lui rappelait de douloureux souvenirs, avait loué à des étrangers les jardins qui renfermaient la tombe et la villa qui portait le nom de sa bien-aimée. Il y a des douleurs qui se nourrissent d'elles-mêmes. Il y en a qui s'effraient et qui se fuient comme des remords. Molle et paresseuse comme la brise, comme l'onde, comme tout ce jour de mai si doux et si somnolent, Lelia, penchée sur la balustrade, plongeait du regard dans la plus belle vallée que le pied de l'homme civilisé ait foulée. Le soleil était descendu derrière l'horizon et pourtant le lac conservait encore un ton rouge ardent, comme si l'antique dieu, qu'on supposait rentrer chaque soir dans les flots, se fût en effet plongé dans sa masse transparente. Lelia rêvait. Elle écoutait le murmure confus de la vallée, le cri des jeunes agneaux roux qui venaient s'agenouiller devant leur mère brune, le bruit de l'eau dont on commençait à ouvrir les écluses, la voix des grands pâtres bronzés qui ont un profil grec de pittoresques haillons et qui chantent d'un ton guttural en descendant la montagne, l'escopette sur l'épaule. Elle écoutait aussi la clochette au timbre grêle qui sonne au cou des longues vaches tigrées et l'aboiement sonore de ces grands chiens de race primitive qui font bondir les échos sur le flanc des ravins. Lelia était calme et radieuse comme le ciel. Stennio fit apporter la harpe et lui chanta ses hymnes les plus beaux. Pendant qu'il chantait, la nuit descendait, toujours lente et solennelle, comme les graves accords de la harpe, comme les belles notes de la voix suave et mâle du poète. Quand il eut fini, le ciel était perdu sous ce premier manteau gris dont la nuit se revêt alors que les étoiles tremblantes osent à peine se montrer lointaines et pâles, comme un faible espoir au sein du doute. À peine une ligne blanche perdue dans la brume se dessinait au pourtour de l'horizon. C'était la dernière lueur du crépuscule, le dernier adieu du jour. Alors ses bras tombèrent, le son de la harpe expira et le jeune homme, se prosternant devant Lelia, lui demanda un mot d'amour ou de pitié, un signe de vie ou de tendresse. Lelia prit la main de l'enfant et la porta à ses yeux. Elle pleurait. « Oh ! S'écria-t-il avec transport, tu pleures ? Tu vis donc enfin ?» Lelia passa ses doigts dans les cheveux parfumés de Stennio et, attirant sa tête sur son sein, elle la couvrit de baisers. Rarement il lui était arrivé d'effleurer ce beau front de ses lèvres. Une caresse de Lelia était un don du ciel aussi rare qu'une fleur oubliée par l'hiver et qu'on retrouve épanouie sur la neige. Aussi, cette brusque et brûlante effusion faillit coûter la vie à l'enfant qui avait reçu des lèvres froides de Lelia son premier baiser de femme. Il devint pâle, son cœur cessa de battre. Près de mourir, il la repoussa de toute sa force, car il n'avait jamais tant craint la mort qu'en cet instant où la vie se révélait à lui. Il avait besoin de parler pour échapper à ces terribles caresses, à cet excès de bonheur qui était douloureux comme la fièvre. « Oh, dis-moi, s'écria-t-il en s'échappant de ses bras, dis-moi que tu m'aimes enfin !» « Ne te l'ai-je pas dit déjà ?» lui répondit-elle avec un regard et un sourire que Murillo eut donné à la Vierge emportée aux cieux par les anges. Non, tu ne me l'as pas dit, répondit-il. Tu m'as dit, un jour où tu allais mourir, que tu voulais aimer. Cela voulait dire qu'au moment de perdre la vie, tu regrettais de n'en avoir pas joui. Vous croyez donc cela, Sténio, dit-elle avec un ton de coquetterie moqueuse. Je ne crois rien, mais je cherche à vous deviner. Oh, Lélia, vous m'avez promis d'essayer d'aimer. C'est là tout ce que vous m'avez promis. Sans doute, dit Lélia froidement, je n'ai pas promis de réussir. Mais espères-tu que tu pourras m'aimer enfin, lui dit-il d'une voix triste et douce qui remua toute l'âme de Lélia. Elle l'entoura de ses bras et le pressa contre elle avec une force surhumaine. Sténio, qui voulait encore lui résister, se sentit dominé par cette puissance qui le glaçait d'effroi. Son sang bouillonnait comme la lave et se figeait comme elle. Il avait tour à tour chaud et froid. Il était mal et il était bien. Était-ce la joie? Était-ce l'angoisse? Il ne le savait pas. C'était l'un et l'autre. C'était plus que cela encore. C'était le ciel et l'enfer. C'était l'amour et la honte, le désir et l'effroi, l'extase et l'agonie. Enfin le courage lui revint. Il se rappela de combien de vœux délirants il avait appelé cette heure de trouble et de transport. Il se méprisa pour la pusillanime timidité qui l'arrêtait et, s'abandonnant à un élan qui avait quelque chose de vorace et de fauve, il maîtrisa la femme à son tour, il l'étreignit dans ses bras, il colla sa bouche à cette bouche douce et molle dont le contact l'étonnait encore. Mais Lélia, le repoussant tout à coup, lui dit d'une voix sèche et dure « Laissez-moi, je ne vous aime plus !» Sténio tomba anéanti sur les dalles de la terrasse. C'est alors que, réellement, il se crut prêt de mourir en sentant le froid du désespoir et de la honte étrangler tout à coup cette rage d'amour et cette fièvre d'attente. Lélia se mit à rire. La colère le ranima, il se releva et délibéra un instant s'il ne la tuerait pas. Mais cette femme était si indifférente à la vie qu'il n'y avait pas plus moyen de se venger d'elle que de l'effrayer. Sténio essaya d'être philosophique et froid, mais au bout de trois mots, il se mit à pleurer. Alors Lélia l'embrassa de nouveau, et comme il n'osait plus lui rendre ses caresses, elle l'en accabla jusqu'à l'enivrer, puis elle lui mit sa main sur la bouche et le repoussa lorsqu'elle le sentit se ranimer et frissonner de plaisir. « Vipère ! » s'écria-t-il en essayant de se lever pour la fuir. Elle le retint. « Reviens, lui dit-elle, reviens sur mon cœur. Je t'aimais tout à l'heure, alors que, peureux et naïf, tu recevais mes baisers presque malgré toi. Tiens, lorsque tu m'as dit ce mot, espères-tu que tu pourras m'aimer ? J'ai senti que je t'adorais. Tu étais si humble alors. Reste ainsi, c'est ainsi que je t'aime. Quand je te vois trembler et reculer devant l'amour qui te cherche, il me semble que je suis plus jeune et plus ardente que toi. Cela m'enorgueillit et me charme. La vie ne me décourage plus, car je m'imagine alors que je puis te la donner. Mais quand tu t'enhardis, quand tu me demandes plus qu'il n'est en moi de sentir, je perds l'espoir, je m'effraie d'aimer et de vivre. Je souffre et je regrette de m'être abusé une fois de plus. Pauvre femme, dit Sténio, vaincue par la pitié, oh, ne peux-tu rester ainsi craintive et palpitante sous mes caresses, lui dit-elle, en attirant encore sa tête sur ses genoux. Tiens, laisse-moi passer ma main autour de ton cou blanc et poli comme un marbre antique. Laisse-moi sentir tes cheveux si doux et si souples se rouler et s'attacher à mes doigts. Comme ta poitrine est blanche, jeune homme, comme ton cœur y bat rude et violent. C'est bien, mon enfant, mais ce cœur renferme-t-il le germe de quelque mâle vertu? Traversera-t-il la vie sans se corrompre ou sans se sécher? Voici la lune qui monte au-dessus de toi et réfléchit son rayon dans tes yeux. Respire dans cette brise l'herbe et la prairie en fleurs. Je reconnais l'émanation de chaque plante. Je les sens passer l'une après l'autre dans l'air qui les emporte. Maintenant, c'est le teint sauvage de la colline. Tout à l'heure, c'étaient les narcisses du lac. Et à présent, ce sont les géraniums du jardin. Comme les esprits de l'air doivent se réjouir à poursuivre ces parfums subtils et à s'y baigner. Tu souris, mon gracieux poète. Endors-toi ainsi. M'endormir, dit Sténio d'un ton de surprise et de reproche. Pourquoi non? N'es-tu pas calme? N'es-tu pas heureux maintenant? Heureux, oui, mais calme. Eh bien, vous êtes un sot, reprit-elle en le repoussant. Lélia, vous me rendez malheureux. Laissez-moi vous quitter. Lâche, comme vous craignez la souffrance. Allez, partez. Je ne peux pas, répondit-il en revenant tomber à ses genoux. Mon Dieu, lui dit-elle en l'embrassant, pourquoi souffrir? Vous ne savez pas combien je vous aime. Je me plais à vous caresser, à vous regarder comme si vous étiez mon enfant. Tenez, je n'ai jamais été mère, mais il me semble que j'ai pour vous le sentiment que j'aurais eu pour mon fils. Je me complais dans votre beauté avec une candeur, avec une puérilité maternelle. Et puis, après tout, quel sentiment puis-je avoir pour vous? Vous ne pourrez donc pas avoir d'amour, lui dit Sténio d'une voix tremblante et le cœur déchiré. Lélia ne répondit point. Elle passa convulsivement ses mains dans les flots de cheveux noirs qui bouclaient au front du jeune homme. Elle se pencha vers lui et le contempla comme si elle eût voulu résumer dans un regard la puissance de plusieurs âmes, dans un instant l'ivresse de cent existences. Puis, l'ambitieuse et impuissante créature, trouvant son cœur moins ardent que son cerveau et ses facultés au-dessous de ses rêves, se découragea encore une fois de la vie. Sa main retomba morte à son côté. Elle regarda la lune avec tristesse. Elle respira la brise avec un gonflement de narines qui avait quelque chose de sauvage. Puis, portant sa main à son cœur et respirant du fond de la poitrine, « Hélas !» dit-elle d'une voix irritée et le regard sombre, « heureux ceux qui peuvent aimer !»